23h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de notre chère Ombline. Comment ça va ?
Bonjour, ça va bien Olivier.
Alors pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, votre vécu nous intéresse. Certains couples passent un contrat moral. Chacun peut aller voir ailleurs. Ils choisissent de se raconter leurs aventures ou au contraire de rester discrets. Ce sont les couples non exclusifs. Parmi eux, il y a aussi les polyamoureux. Ces personnes qui en couple tombent amoureuses et entament de nouvelles relations avec d'autres tout en restant avec leur premier amour. Ces couples sortent du schéma classique qui nous est imposé depuis longtemps, celui de rester avec une seule et même personne sexuellement et sentimentalement. Mais la fidélité, est-ce une obligation pour vous, une condition sine qua non dans votre couple? Peut-on parler d'infidélité lorsque les deux parties sont d'accord pour tenter d'autres aventures? La fidélité dans le couple, est-ce une obligation? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et on vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. N'hésitez pas à nous appeler au standard d'Europe 1. Vous pouvez aussi nous écrire Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons notre premier auditeur sur ce sujet, il s'agit de Mathieu. Bonjour Mathieu et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1 en 39-21.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous ?
Très bien et vous ?
Écoutez, très bien. Quel âge avez-vous Mathieu ?
J'ai 39 ans.
Vous nous appelez d'où ?
De Lyon.
De Lyon. Alors Mathieu, vous êtes resté 9 ans avec votre compagnon qui vous a dit dès le départ qu'il n'était pas fidèle. Comment avez-vous pris cette confidence ?
C'était un peu surprenant pour une première rencontre. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis dit, c'est ce que je lui ai exprimé, que ça pouvait changer. Parce que je pense que c'était une question de partenaire et du coup que je sortais aussi d'une relation libre, on va dire, donc avec une certaine liberté au niveau des rencontres sexuelles. Donc,
oui.
J'ai pas plus choqué que ça, en espérant que ça puisse être une relation avec une notion de fidélité, mais je me suis dit que je laisserais le temps faire.
Et vous étiez très amoureux de cet homme. Vous, avant, vous aviez déjà admis cette liberté au sein du couple ?
Alors, dans un couple précédent, oui. Après, en redémarrant une relation, j'étais pas forcément dans l'optique d'avoir une relation libre dès le départ, parce que je pense que ça peut arriver... dans l'évolution du couple, même si j'ai un peu changé d'avis sur le sujet.
Oui.
Mais voilà, après, j'étais pas forcément opposé complètement à l'époque à cette notion, même si, comme je vous le dis, en démarrant une relation amoureuse, je pense que si on en est déjà pensé à être complètement libre, c'est pas forcément comme ça que ça va marcher. Mais je me suis dit, pourquoi pas, on tente. Et puis,
donc,
ça a tenu 9 ans quand même. Donc,
ça a tenu 9 ans. Donc vous avez décidé d'un commun accord qu'on partait sur cette relation libre finalement?
Alors pas vraiment. En fait, ce qui s'est passé, moi je me suis dit qu'on laisserait le temps faire initialement. Donc mon compagnon lui reconnaissait pas forcément quand je me suis rendu compte qu'il allait sur des applications que je citerai pas, mais que tout le monde connaît,
ouais.
Des sites de rencontres, etc. Mmh. Il a mis beaucoup de temps à reconnaître en fait qu'il y allait, qu'éventuellement qu'il s'amusait aussi de son côté. Donc au bout d'un moment, il a fini par admettre et du coup, je lui dis, écoute, pourquoi pas. Sauf que du coup, on met quelques règles en place, entre guillemets, sur le fonctionnement. Donc on se donne une certaine liberté, mais il y a deux règles qui pour moi étaient essentielles. C'est-à-dire que c'est seulement du sexe, c'est pas de relation amoureuse en parallèle, donc pas de relation d'amant au sens, comme tout le monde entend.
Ouais, ou presque. Ouais, d'accord, sentimental.
Voilà, c'est ça, pas de sentiment, c'est juste du sexe et
oui.
Pas la maison.
D'accord, mais est-ce que vous en parliez ensemble de ces autres relations?
Non, alors clairement, il y avait une vraie pudeur plus de son côté que du mien, parce que moi je suis un peu plus un peu moins pudique, on va dire. Lui, il assumait pas vraiment, même si c'est un vrai besoin chez lui, je pense qu'il l'aura encore aujourd'hui. Contrairement à moi qui vivais ça, c'est un amusement plus qu'autre chose. Mais clairement, on rentrait pas le soir en disant tiens, avant de rentrer, je suis allé m'amuser, etc. Ça restait un jardin secret, même s'il nous arrivait des fois de croiser des gens dans la rue avec qui éventuellement moi je m'étais amusé. Je disais tiens, lui, je le connais comme ça, entre guillemets, etc. Mais pas dans le c'était plutôt un non-dit, j'allais dire, on s'est jamais dit, bon, on se raconte ça le soir, etc. C'était.
Oui, on, visiblement, ça restait évasif, en tout cas. Puis, votre compagnon s'est éloigné de vous ensuite. Vous avez découvert quelque chose ?
Alors, fait, ce qui s'est passé, il y a eu des changements un petit peu, on va dire, dans ma vie à moi personnelle et professionnelle, donc une période un peu compliquée. Donc effectivement, on s'est un petit peu éloigné et donc j'ai discuté avec lui, je sentais qu'il y avait un éloignement, il m'a dit que ça allait, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il entretenait, on va dire, une relation, je l'ai qualifié d'épistolaire, parce que la personne ne vivait pas sur Lyon, avec une personne, mais qui avait plus que juste des échanges de mots, etc., et qui était en train de potentiellement construire autre chose en parallèle.
Mmh. Avec du recul comme ça, Mathieu, est-ce que vous regrettez la liberté qu'il y avait au sein de votre couple ?
Alors, sur cette relation-là, je vais dire non, parce que ça faisait partie du deal. Après, c'est le non-respect des règles et des bases qu'on avait établies. Qui me pose un souci, qui m'en pose encore aujourd'hui. Et le fait que les choses n'aient pas été faites dans l'ordre, entre guillemets, si vous voulez, c'est quand ça ne va pas avec quelqu'un, on se sépare et après on construire quelque chose. On ne construit pas en parallèle, c'est un petit peu une solution de facilité pour moi de construire. Après, clairement, aujourd'hui, en revanche, clairement, la liberté au sein du couple, j'y crois pas. J'ai fait ça deux tentatives avec des relations assez longues. Ça n'a pas marché, donc pour moi, clairement, c'est pas la solution. C'est pas épanouissant, ça apporte pas grand-chose.
En tout cas, visiblement, vous avez compris que voilà, cette liberté que cet homme s'accordait hein, plus que vous, parce que j'ai l'impression que vous parliez beaucoup de lui et peu de vous, en tout cas que l'un était plus libre que l'autre. Aujourd'hui, vous êtes plus sur l'idée d'un couple fidèle.
Clairement, aujourd'hui, je ne suis pas en couple, mais si ça doit revenir, clairement, je suis plus sur une notion de couple fidèle. Après, quand on avait cette liberté, et que j'étais donc avec mon compagnon à l'époque, effectivement, dans la façon dont je m'exprime, ça donne l'impression que c'est plus lui qui s'amusait que moi. Après, on n'a pas tenu des comptes, mais je pense qu'on était à peu près au même niveau.
D'accord. Merci Mathieu pour votre témoignage au 3921 sur Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Andrea, qui est libertine et polyamoureuse.
Et on a un message de Chris sur Facebook, sur la page du groupe. On n'appartient jamais à quelqu'un, mais par respect l'un envers l'autre, à la fidélité. La fidélité avec un grand oui, pardon. Dans ce monde, on oublie les vraies valeurs du mot amour.
Europe 1.
Selon vous, la fidélité est-elle une règle indispensable pour qu'un couple fonctionne ? On vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir, poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Être infidèle, est-ce une preuve de désamour, une limite qui ne doit pas être franchie dans le couple ? Ou au contraire, être infidèle ne remet pas du tout en cause l'amour que vous vous portez ? Vous en parlez cet après-midi au 39-21 avec Olivier Delacroix.
Et nous avons eu Mathieu au 39-21 qui nous expliquait que sa relation non exclusive avec son ex-compagnon, eh bien finalement, avait conduit à leur séparation à cause d'une rencontre qui s'est terminée en une relation amoureuse pour son compagnon, bien évidemment. Et nous sommes maintenant avec Andrea. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Andrea.
Bonjour, merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 36 ans, j'appelle de Grenoble.
D'accord. Alors, vous, Andrea, cela fait plus de 20 ans que vous êtes avec votre compagnon et vous n'aviez que 16 ans lorsque vous vous êtes mis ensemble. Au fil des années, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas eu d'autres expériences sexuelles finalement qu'une seule personne, un seul corps. Et ça a fini par vous déranger. Vous aviez l'impression de passer à côté de quelque chose ?
Alors on avait peur de passer à côté de quelque chose, mais après ça nous dérangeait, c'est-à-dire que l'idée nous travaillait, mais on était vraiment dans un esprit, enfin on était vraiment un couple qui communiquait beaucoup, avec beaucoup de respect, et c'est vrai que du coup petit à petit, voilà, on a commencé à se dire pourquoi pas essayer d'ouvrir le couple, mais c'est vrai qu'on avait peur, donc dans un premier temps on s'est dit pourquoi pas l'ouvrir juste au niveau sexuel, c'est-à-dire pas au niveau des sentiments, mais voilà, vraiment au niveau sexuel pour commencer à avoir d'autres expériences. Et puis voilà, faire ça toujours dans la communication, puis dans le respect.
Alors, on appelle ça le libertinage. Hein. De quelle façon vous l'avez évoqué ensemble et voilà, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Bah, en fait, au début, déjà à 16 ans, on ne s'est pas dit qu'on ferait notre vie ensemble. Mais alors, pas du tout.
Non, ça, donc, c'était pas prévu.
C'était pas prévu. Et c'est vraiment petit à petit, quand on s'est dit qu'on allait faire notre vie ensemble et que bah, on était la seule expérience sexuelle l'un de l'autre, qu'on a commencé à en parler. Mais ça a pris des années avant de vraiment sauter le pas. Mmh. C'est vraiment que voilà, on a commencé à se dire et pourquoi pas, etc. Mais on avait un petit peu peur et on en a pas mal parlé. Et du coup, voilà, on a sauté le pas. C'était à 25 ans, donc 9 ans plus tard.
D'accord. Alors, bien évidemment, ma question, puisque je suis un peu curieux, vous avez sauté le pas. Et ensuite, est-ce que vous y avez pris goût ? Est-ce que finalement, cela a créé une nouvelle philosophie au sein de votre couple, une nouvelle conception du couple ?
Eh ben, on l'a très bien vécu en fait. Et oui, ça a créé complètement une nouvelle philosophie. Mais du coup, on est resté dans ce schéma pendant beaucoup d'années. Oui. Parce qu'on s'y est trouvé très bien. parce que du coup, on en parlait avant, pendant, on était tout le temps ensemble, et en fait, on en reparlait après. Donc, si quelqu'un le vivait mal, et ben, on n'hésitait pas tout de suite. On avait tous les deux un droit de veto, on était vraiment à l'écoute l'un de l'autre. Et du coup, moi, c'est vrai que je l'ai vécu sans jalousie ni rien. C'était plutôt que j'étais contente pour lui. Et puis, je sentais qu'il était content pour moi. Donc, voilà, c'était très agréable.
Alors, c'est quoi le vivre mal ? Expliquez-moi le moment où, parfois, ça s'est mal passé.
Ça s'est pas trop mal passé.
D'accord.
Peut-être il y a eu une fois où quand par exemple on s'était dit bah écoute si t'as une soirée que je suis pas là et ben tu m'appelles et puis tu m'appelles pour me prévenir entre guillemets voilà pour savoir si moi ça allait. Disons que je suis à la maison, il m'appelle, il a une soirée, il me dit bah il va peut-être se passer quelque chose avec une femme. C'est vrai que là quand je suis dans l'attente ça me faisait un peu bizarre mais c'était complètement vivable. Et après en général on en parlait dès qu'il revenait. Mmh. Et c'est vrai que nous contrairement peut-être à celui qui témoigne avant on se racontait tout. On aimait beaucoup partager et du coup bah on se racontait exactement ce qui s'était passé, comment ça s'était passé et voilà.
D'accord. Un jour votre compagnon a rencontré une autre femme, il est tombé amoureux. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ?
Alors, là, on est hors du libertinage. Déjà, c'était pas du tout une expérience libertine.
D'accord.
Et alors, moi, quand je dis tomber amoureux, c'est vrai qu'on avait un petit désaccord, lui et moi. On va dire qu'il est devenu très, très proche d'une femme, très complice, très intime. Il se racontait tout, ils étaient tout le temps ensemble, ils s'envoyaient tout le temps des messages. Et là, je l'ai mal vécu. Mais du coup, voilà, il couchait pas du tout avec elle. C'était pas du tout du libertinage. Et là, c'est vrai que du coup, ça réveillait ma jalousie parce que justement, c'était quelque chose qui sortait du cadre de ce que je voulais, en fait.
Mmh. Et vous êtes toujours ensemble aujourd'hui ou c'est terminé ?
Complètement.
D'accord.
Mais du coup, c'est là qu'on a décidé de faire évoluer notre couple parce qu'on s'est posé pas mal de questions, on a beaucoup parlé. Et du coup, c'est vrai que quelque part, je me suis dit, mais pourquoi se restreindre ?
Vous avez décidé de devenir polyamoureux, ce que je trouve très, très joli, très poétique. Vous assumez complètement ce polyamour et votre libertinage, à tel point que vous avez créé une chaîne YouTube qui s'appelle Concrètement Moi, où vous racontez ce que c'est que le polyamour. Et expliquez-nous ce que c'est que le polyamour.
Alors le polyamour, moi je dirais que c'est déjà deux êtres, en fait on se considère aujourd'hui comme deux êtres complètement libres, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir des aventures amoureuses avec autant de personnes qu'on veut, et c'est dans la transparence et dans le respect et dans la communication. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de je suis libre, je n'appartiens à personne, et puis ben voilà, d'être entre guillemets heureux pour l'autre quand il a une autre aventure amoureuse, parce que ça ne nous enlève rien, et parce qu'au final notre relation, ben, si on veut la faire vivre, c'est notre relation qu'il faut nourrir. C'est pas s'empêcher de vivre ailleurs, s'empêcher de voir ailleurs. C'est vraiment, si on s'aime, si on veut être ensemble, et ben nourrissons notre relation.
Mmh. C'est finalement pouvoir être amoureux de plusieurs personnes, hein, si j'ai bien compris. Andrea, vous restez avec nous. Ça sera intéressant de voir dans un instant quel éclairage et quel regard portera Katoucha Kakolon, psychothérapeute du couple et cofondatrice de l'école du couple.
Et Carole nous écrit sur Facebook, pas question de tout casser pour une infidélité d'un côté comme de l'autre. Une vie entière avec une seule et même personne, c'est rare. Je n'y crois pas du tout. On change, on évolue différemment.
Europe 1.
Comme Andrea ou Carole, vous ne vous interdisez pas de vivre plusieurs histoires d'amour en même temps. Ou au contraire, un couple, c'est 1 plus 1 et c'est tout. On vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute. Dans le couple, lorsque les étincelles des premières années s'estompent, continuez-vous de jurer en la fidélité ou pensez-vous qu'il est envisageable d'aller chercher la passion ailleurs ? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour venir nous raconter, témoigner et dites-nous aussi quelle est la conception du couple selon vous sur Twitter, hashtag Europe 1.
Nous sommes maintenant en ligne avec Katoucha Kakolon, psychologue et thérapeute du couple. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Katoucha.
Bonjour.
Bonjour. Alors, quand on entend le témoignage d'Andrea, elle semble heureuse de pouvoir partager sa vie sexuelle avec son homme, mais en même temps, elle a du mal à accepter qu'il tombe amoureux d'une autre femme. Quelles sont finalement les limites à ne pas franchir quand on se dit un couple non exclusif ou polyamoureux ?
Écoutez, c'est toujours compliqué l'histoire du polyamour comme l'histoire du libertinage. D'ailleurs, ce sont deux choses bien différentes. Elle le dit très bien. J'ai l'impression qu'au départ, leur couple était plus vers la direction du libertinage.
Exactement.
C'est-à-dire, hein,
oui, oui.
Et puis, il y a quelque chose du polyamour, c'est-à-dire ils vont revendiquer la possibilité d'être épris de plusieurs personnes, ouvertement, honnêtement, avec une forme de transparence.
Oui.
Ils s'en parlent. à la fois, ça peut être compliqué, ça peut être souffrant. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je vais recevoir ce type de couple. En tout cas, moi, en tant que thérapeute du couple, je n'ai pas à avoir de jugement de valeur par rapport à tout ça. Mmh. Et je vais essayer de faire travailler le couple sur ce qu'ils vivent et tout simplement sur les choix qu'ils vont faire ensemble, sur leurs contrats qui vont être posés. On voit bien qu'avec cette jeune femme, il y a une forme de contrat, mais qui va être revisité parce que le couple évolue, puis parce que le couple va peut-être souffrir de cette forme de polyamour lorsque son compagnon va tomber peut-être amoureux de quelqu'un d'autre, ou en tout cas va avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, étant donné que le besoin d'exclusivité est tout à fait humain.
Il est important quand même, Katouchka, de poser les limites avec son conjoint ou sa conjointe lorsqu'on part sur un concept tel que celui-ci.
Eh bien, tout à fait. Je veux dire, plus le couple sera mature, et ça demande une puissance de caractère, ça demande une capacité de dialogue, de complicité, plus le couple sera dans cette maturité, plus les choses pourront se vivre le mieux possible. Mmh. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est qu'une forme de contrat qui est plutôt implicite. On va pour donner du piment à une relation qui peut être, dans laquelle il y a peut-être de l'ennui, notamment dans la sexualité. On va essayer de vivre des choses ailleurs. Et du coup, le contrat n'est pas clairement défini et ça va entretenir des souffrances.
Mmh. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plutôt que de se séparer, certains préfèrent partager. Est-ce que c'est une tendance que vous constatez aujourd'hui, vous ?
Moi, j'ai l'impression que le polyamour et le libertinage, qui sont d'ailleurs deux choses différentes, c'est assez à la mode. On va dire ça comme ça. C'est assez à la mode. Effectivement, peut-être pour tromper l'ennui ou peut-être dans une espèce d'illusion que de vivre des choses à côté, eh bien, on va nourrir la relation sexuelle. D'ailleurs, pourquoi pas, ça peut la nourrir. Mm-hmm. Hein. Mais moi, les gens qui viennent me voir, pour la plupart, sont surtout des couples dans lesquels il y a eu une tromperie, une trahison. Moi, j'appelle plutôt ça une relation extérieure. Oui. Ou un tiers sexuel.
Et où ils viennent vous voir pour réparer les dégâts qu'a causé cette sortie de route.
Et oui, bien évidemment, ils viennent me voir parce qu'il y a une très grande souffrance du côté de la personne abandonnée, trahie. Ouais. Et puis l'autre personne, peut-être effectivement qu'elle ne veut pas finalement perdre ce couple. Et alors, il va se passer quelque chose là dans mon cabinet lorsqu'ils vont venir. Ils vont s'apercevoir que peut-être ce tiers sexuel, comme je dis, cette relation extérieure, révèle un dysfonctionnement dans le couple, une souffrance du couple qu'on va essayer de travailler ensemble.
Mmh. Certains préfèrent ou choisissent carrément de rester toute leur vie avec une seule personne. Est-ce que c'est un gage d'amour, de sérieux ou ce que la société nous a imposé depuis longtemps selon vous ?
Écoutez, moi je crois que ça aussi, on le fait travailler. Hein. Chaque personne, chaque couple se débrouille un peu avec ce qu'il vit. Hein. Effectivement, est-ce que la société prône la fidélité aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ça paraît aujourd'hui presque un petit peu, presque ringard de dire on est fidèle. Et en même temps, la fidélité est posée quand même comme un pilier du couple. Ouais. Parce que ça donne quand même une forme d'engagement, de sécurité dans le couple, malgré tout.
Et puis, ce gage de fidélité, et là je donne mon avis, ce gage de fidélité, il est aussi un gage de solidité du couple, quelque part. Parce qu'on on entend beaucoup de polyamoureux, de libertins, venir dans votre cabinet pour réparer.
Oui.
Pour réparer ces sorties de route. J'ai l'impression que ce concept de polyamour, il est compliqué en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est bien maîtrisé par ceux qui viennent vous voir ?
Écoutez, moi j'ai reçu déjà un couple de polyamoureux. Ils vivaient très bien cette forme-là jusqu'au moment où ils ont voulu devenir un couple parental, c'est-à-dire avoir un enfant.
D'accord.
Et là, ça a commencé à poser un problème dans leur couple. C'est
et
pour ça qu'ils sont venus.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que comment ils vont faire avec les autres partenaires ? Est-ce que l'enfant sera bien du partenaire, on va dire, prioritaire ou priorisé ? Comment ça va se passer par rapport aux autres? Est-ce qu'on va garder les autres partenaires, etc., etc. Devenant un couple parental, c'est-à-dire s'engageant d'une certaine manière, d'une autre façon, ils sont venus dans mon cabinet pour réfléchir ensemble, puisque moi je suis pas du tout là pour leur imposer ma propre vision, ma propre anthropologie personnelle.
J'entends bien.
Je suis là pour les faire travailler sur ce qu'ils veulent eux.
D'accord, sur ce qu'ils veulent eux. Mais quand même, vous, Katushka, ce concept de aimer plusieurs personnes, quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que cela vous semble être un concept possible d'aimer plusieurs personnes à la fois?
Pourquoi pas? Écoutez, moi, je sais pas, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Je crois que c'est pas tout à fait la question. C'est comme le libertinage. Vous pourriez me demander, mais le libertinage, c'est quoi? Alors, le libertinage, c'est un petit peu différent d'ailleurs
de ce que
vous
disiez. C'est différent,
ouais. Oui, et puis le libertinage, c'est souvent, se pratique souvent au sein du couple. C'est-à-dire que c'est le couple qui a la première motivation du libertinage, c'est quand même le désir d'être vu et le désir de regarder, de voir.
Si je vous posais cette question, c'est juste parce que je me mets à la place des auditeurs. Souvent, on entend « c'est impossible d'aimer plusieurs personnes à la fois ». C'est pour ça que je vous posais cette question.
Vous savez, la notion de l'amour, puisque vous employez ce terme aimé,
oui.
Nous, à l'école du couple, on travaille peu avec cette notion.
D'accord, c'est intéressant.
C'est difficile quand un couple dit « Ah, mais je l'ai trompé, mais je l'aime ».
Oui.
C'est très compliqué de travailler avec cette notion-là.
Et pourquoi ?
Je pratique le polyamour, mais j'aime cette personne que je priorise. Donc, nous, on travaille d'une autre manière, c'est-à-dire on va voir que, par exemple, une infidélité, ça peut tout à fait être le symptôme d'un couple en souffrance et on va essayer de le travailler de cette manière, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe par exemple en termes de frontières pour qu'il y en ait un des deux qui est allé voir ailleurs.
D'accord.
C'est-à-dire que peut-être les espaces pour chacun ne sont pas bien, sont trop rigides, et peut-être que la personne qui va tromper, eh bien, elle se sentait un petit peu enfermée dans quelque chose.
Et
on va essayer de le regarder ensemble.
Et vous travaillez, si je traduis un petit peu ce que vous dites, vous travaillez sur les fondations fragilisées d'un couple à un moment ou un autre. Katushka Colomb, je rappelle que vous êtes psychologue et thérapeute du couple, vous restez en ligne avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir Frédéric qui a beaucoup travaillé sur lui et son rapport à la jalousie grâce justement au polyamour.
Europe 1.
La fidélité au sein d'un couple est-elle indispensable selon vous pour que l'histoire dure? Vous nous donnez votre point de vue au 3921, vous nous écrivez également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous prenez la fidélité dans le couple ou au contraire vous êtes contre la conception d'exclusivité dans le couple? Vous discutez avec Olivier Delacroix au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Frédéric. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1 au 3921, Frédéric.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 32 ans et je vis actuellement à Paris.
Vous vivez à Paris. Alors, avant de rencontrer Maëlie, on dit bien ça comme ça, Maëlie?
Oui, oui.
Il y a 13 ans que vous l'avez rencontrée. Vous étiez quelqu'un de très jaloux et de très passionnel. Racontez-moi comment ça se traduisait.
Alors, c'était mes premières relations quand j'avais 17 ans. J'ai commencé sur le tard. Et je m'attachais uniquement à la personne que j'aimais. Je regardais pas d'autres personnes. On se voyait très souvent. Enfin, c'est les premières rencontres. On s'imaginait rester ensemble très longtemps, etc. Et j'ai trouvé que la jalousie était une passion triste, en fait, quelque chose qui rendait pas heureux dans le couple. Ça apportait beaucoup de peur, la peur d'être quittée, la peur qu'elle trouve du plaisir ou qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre.
Oui.
La peur qu'elle me quitte pour quelqu'un d'autre aussi. Et aussi, ça apporte aussi de la frustration de l'autre côté, parce que on se dit, peut-être, comme la première intervenante, peut-être que je serai toujours avec cette personne, que je connaîtrai pas d'autres personnes, etc. Parce qu'on était très bien ensemble, effectivement. Et finalement, c'est la jalousie qui a cassé notre couple. Et j'ai l'impression, quand je regarde toutes les fictions qui existent, les fictions romantiques ou les chansons d'amour, etc., finalement, c'est l'exclusivité qui détruit de nombreux couples.
Oui, c'est vrai.
Et
ouais.
Voilà, c'est l'analyse que j'en ai eue, moi. Et je me suis dit que si je pouvais me passer de ça, enfin, ça m'apportait rien d'être jaloux. Et si je pouvais m'en passer, ce serait que pour le mieux.
Mais
mon modèle de relation, c'est un peu les relations amicales. Je trouve que les relations amicales sont beaucoup plus saines. On se cache rien entre amis, on n'a pas besoin de se cacher des choses. Si on a un autre ami, on n'a pas besoin de quitter nos anciens amis, ce serait absurde. Mmh. Et pourtant, en amitié, on arrive à avoir des relations qui sont très durables, qui sont très sereines. Et qui sont tout à fait claires et satisfaisantes pour tout le monde.
Mais c'est très fort ce que vous dites, je trouve, parce que finalement, vous êtes devenu polyamoureux avec elle, avec Maëlie, par finalement volonté de rester avec elle et de continuer avec elle. Et de ne pas la perdre.
Effectivement. Alors, ce n'est pas parce qu'on avait peur de se perdre l'un l'autre, c'est aussi qu'on s'est trouvé à être tous les deux ensemble avec une philosophie qui correspondait à ça.
Oui.
On est deux personnes qui sommes aussi animalistes et je pense que c'est un lien avec ça. Je pourrais développer si ça vous intéresse. Et en tout cas,
je n'ai pas compris. Vous êtes, pardonnez-moi,
animaliste. Donc on porte égard aux droits des animaux.
Ah d'accord, ok, très bien. Okay.
Moi, je vois un lien avec ça, mais globalement, c'était notre philosophie et nos valeurs. Ça correspondait mieux. Ça nous correspondait mieux d'évoluer en étant dans le polyamour. Donc c'est quelque chose qu'on a fait au fur et à mesure, hein, parce que tout le monde naît dans une société qui montre les couples exclusifs, et justement, dès qu'il y a une troisième personne, une quatrième personne, voilà, des choses comme ça, c'est tout de suite la catastrophe, et on apprend dès qu'on est tout petit que l'amour c'est forcément à deux, et que une autre personne, plusieurs personnes, c'est la catastrophe. Donc évidemment, quand on grandit dans une société comme ça, on est anxieux à l'idée qu'autre chose puisse être possible.
Mmh. Je me tourne vers vous, Katushka Colomb. Je rappelle que vous êtes thérapeute du couple. Lorsque vous entendez Frédéric parler de cette évolution, hein, de jaloux, passionnel, hein, très passionnel, ce concept de polyamoureux, en fait, vous avez rencontré plusieurs personnes comme ça qui ont mué, qui se sont transformées comme ça?
Écoutez, pas vraiment. En même temps, je trouve que Frédéric nous montre sa capacité dans le couple qu'il forme, ainsi que sa compagne, et sa capacité à revisiter peut-être les choses pour rester ensemble. Peut-être aussi que ce sentiment de jalousie, qui pour moi est quand même un sentiment très humain, l'encombrait tellement, l'a fait tellement souffrir, que peut-être une manière de s'en débarrasser, ça a été d'ouvrir son couple à autre chose et de l'expérimenter. Et il se trouve que, de ce qu'il raconte, le contrat est suffisamment posé entre eux et clarifié pour que ça fonctionne, mmh, et que ça leur permette finalement une forme de liberté et d'ouverture.
Et une nouvelle construction, finalement.
Une nouvelle construction, c'est ce que vous avez dit.
Oui, c'est une nouvelle construction.
Pourquoi pas, oui. Tout à fait. Mmh. J'en ai peu rencontré, parce que moi, les gens qui viennent me voir, ils sont dans une blessure.
Dans une souffrance
de l'adultère, en fait, ce que la société appelle adultère. Mmh.
Katushka, restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à profiter de vos éclairages sur ces concepts de polyamoureux, de libertinage, en tout cas d'une conception autre que la plus commune, hein, la fidélité dans le couple. Justement, nous accueillerons dans quelques instants Isabelle, qui, elle, a l'impression d'être vieux jeu parce qu'elle est fidèle et mariée et bien.
Europe 1.
La fidélité gage de loyauté entre deux conjoints, selon certains. Pour d'autres, ce n'est pas la base du couple. Et vous, alors, qu'en pensez-vous? Vous nous le dites au 39-21. Vous composez le 39-21 pour venir parler de fidélité dans le couple avec Olivier Delacroix. C'est pour vous un pilier d'un couple heureux, la fidélité, ou au contraire, vous êtes contre l'exclusivité?
Et nous sommes toujours en ligne avec Frédéric, qui, de la jalousie très passionnelle, est passé au concept de polyamour. Nous sommes toujours en ligne aussi avec Katushka Colomb, psychothérapeute du couple et cofondatrice de l'école du couple. Et nous accueillons maintenant Isabelle. Bonjour Isabelle, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe
1. Bonjour Olivier.
Bonjour
Olivier, bonjour à tous.
Bonjour. Alors Isabelle, vous avez l'impression d'être vieux jeu en écoutant l'émission depuis le début. Dites-moi pourquoi.
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'entends toutes les personnes qui sont passées à l'antenne, j'ai l'impression d'être un couple dinosaure. Tout simplement parce que avec mon mari, en fait, ça fait bientôt 20 ans qu'on est mariés, un peu plus qu'on est ensemble, et en fait. On ne s'est jamais posé la question de fidélité.
Qu'est-ce qui fait que vous ne vous l'êtes jamais posé ?
Ben, simplement, c'est que c'est une relation de confiance.
Oui.
Peut-être que c'est aveugle, mais en tout cas, je veux dire, dans le fait que depuis qu'on est ensemble, je veux dire, c'est comme si on était ensemble depuis hier, en fait.
D'accord.
Donc, pour ma part, on ne sait jamais, même lui étant parti quelquefois en déplacement, parce que ça peut arriver de ne pas se voir pendant quelques jours ou voilà. Mais pour moi, et puis comme pour lui, je veux dire, c'est pas quelque chose qui. Si je venais à lui dire, ou s'il venait à me dire est-ce que tu m'es fidèle ? Je veux dire, c'est pas une question qu'on se pose, quoi. On a d'autres chats à fouetter, ouais. Et d'autres questions à se poser sur notre couple ou sur notre famille en général. Donc c'est vrai que l'idée c'est ce que je disais au standard, si en fin de compte, peut-être que je me trompe, le fait que qu'un jour je lui dise ou qu'il me dise est-ce que tu m'es fidèle, en fin de compte, d'une certaine manière, c'est presque une prolongation et c'est de dire en fin de compte, est-ce que tu m'es infidèle ?
D'accord, ok. Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression d'être un couple un peu collector finalement au bout de 20 ans parce que y a de plus en plus de gens qui divorcent, qui ne passent pas la barre des 5 ans même. On dit que 7 ans, c'est toujours tous les 7 ans. Est-ce que vous avez cette impression ?
Je ne sais pas si c'est collector, parce qu'en fin de compte, je vous dirais qu'il n'y a pas très très longtemps, on m'a dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes mariés ? Et en fait, je me suis un peu plantée au niveau de la date.
Ouais.
et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est ensemble, et on ne s'ennuie pas. Donc,
super. Écoutez, après, Isabelle...
D'accord.
Isabelle, restez en ligne avec nous. Ça sera intéressant de confronter votre avis à celui de Frédéric, qui est resté en ligne lui aussi, et à Katushka Colon, qui est psychothérapeute spécialiste du couple.
Et sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Joanne nous dit qu'elle est pour la fidélité. Si tu t'engages, tu respectes. Sinon, mieux vaut rester seul. Christophe, lui, chacun couple vit à sa façon. Mais le problème principal de l'infidélité, c'est la trahison.
Europe 1.
La fidélité est-elle une obligation pour vous dans le couple ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et on vous demande cet après-midi si la fidélité dans le couple est une obligation.
Et nous sommes toujours en ligne avec Frédéric. Frédéric, le polyamour, c'est un choix, un vrai choix, pas un choix par défaut pour solidifier un couple qui bat de l'aile.
Oui, c'est important pour moi de mettre l'accent sur ça parce que il ne faut pas voir le polyamour à travers les lunettes qu'on pourrait avoir depuis l'exclusivité romantique. Mmh. En fait, si vous proposez à quelqu'un qui n'a jamais ressenti de jalousie ou quelqu'un qui a travaillé sur sa jalousie pour plus que ce soit un sujet pour elle, si vous lui proposez une exclusivité amoureuse, c'est un peu comme proposer un vélo à un poisson rouge. Il ne saura pas quoi en faire, on n'a juste pas besoin, en fait.
Mmh.
Il y a plein d'autres façons d'aimer. Dans la communauté gay, par exemple, c'est assez classique, c'était le premier intervenant qui parlait de ça, c'est assez classique de ne pas être exclusif sexuellement, au moins,
oui.
Mais aussi parfois romantiquement. Et faut pas se dire que le polyamour, c'est forcément des couples qui sont ouverts à d'autres personnes ou des choses comme ça. Il y a juste des personnes qui n'ont pas besoin d'exclusivité, qui sont très heureuses sans exclusivité, qui font très bien sans,
oui.
Et qui n'ont juste pas d'intérêt, qui ne voient pas d'intérêt, pas plus qu'on verrait de l'intérêt à être exclusif amicalement.
En tout cas, visiblement, c'est une... Allez-y, pardonnez-moi.
Je pense aussi qu'il faut faire très attention. Dans l'émission, j'ai beaucoup entendu parler de fidélité et en l'opposant au polyamour. Au contraire, je dirais que la fidélité, c'est une notion qui est centrale dans le polyamour. On ne peut pas être polyamoureux si on n'est pas fidèle aux personnes avec qui on est. À ce moment-là, en fait, on est juste infidèle, éventuellement en faisant un forcing sur l'autre pour qu'il accepte son infidélité.
Ouais.
En fait, pour que ce soit une situation de polyamour, il faut qu'il y ait le consentement éclairé et enthousiaste de toutes les parties
prenantes.
De
tout le monde, j'ai bien compris.
Et donc, que ce ne soit pas un forcing où il y a une personne qui dit « à partir de maintenant, je vais être polyamoureux ou polyamoureuse, et puis toi, soit tu acceptes, soit je te quitte ».
On a bien saisi, Frédéric. J'aimerais me retourner vers Isabelle, justement, qui, elle, est plutôt représentante de cette fameuse fidélité que nous n'opposons pas au polyamour. Mais j'aimerais avoir son sentiment sur ce concept de polyamour, Isabelle. Très rapidement, s'il vous plaît.
Après, comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il entend.
Bien sûr.
Après, c'est, enfin, je veux dire,
ce n'est pas quelque chose qui vous choque, en fait. Vous entendez lorsque Frédéric dit que.
À partir du moment où, enfin, comme je dis, j'ai des amis qui se sont séparés, qui ont des aventures ou, enfin, voilà. Après, ce qui se passe, c'est que, disons que quand, par exemple, elles viennent, enfin, avec un ami et puis après elles viennent à la maison avec un ami. Si par exemple les enfants sont là, et puis après du coup les enfants des fois disent, mais, tiens, elle a changé. Bah oui, elle a changé, voilà, c'est comme ça, c'est voilà. C'est, je veux dire, dans le fait que,
tant que ça ne vous gêne pas, on a.
Ouais. Tant que ça ne touche pas mon couple, vous... point barre, je veux dire, après, chacun est libre de faire ce qu'il entend.
D'accord.
Je veux dire, je ne suis pas jalouse parce que. Je veux dire, il y a une personne de mon entourage qui a décidé d'aller voir ailleurs ou d'avoir. Enfin, je veux dire, c'est son problème, quoi.
J'ai envie de vous dire qu'on a toujours des copains, des copines qu'on voit à vitam aeternam changer de partenaire et que ça n'est pas du tout choquant parce que certains sont faits pour vivre en couple fidèle, d'autres sont faits pour vivre en troupe. On n'a pas à aborder cette notion, mais c'est vivre à trois. D'autres sont faits pour le polyamour et j'ai envie de vous faire référence à la chanson de Chagrin d'amour. Chacun fait ce qui lui plaît. Merci beaucoup Isabelle en tout cas. Merci aussi à Mathieu, André, à Katushka Colon, à Frédéric de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vous, nous avons appris qu'il existe autant de définitions de la fidélité finalement que de couples. Pour certains, leur couple ne peut pas fonctionner sans avoir d'aventure ailleurs, le tout étant que chacun soit consentant. Nous l'avons vu, c'est pour eux un gage de stabilité dans leur couple, un moyen de ne jamais se séparer. Et pour d'autres, il est inconcevable d'avoir ne serait-ce que l'envie d'aller voir ailleurs si on est bien dans son couple. Que la fidélité soit perçue comme fondamentale ou au contraire comme un piège pour le couple, il faut surtout que les choix de chacun ne soient pas subis. Si c'est le cas, parlez-en avec votre conjoint et n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute de couple. Vous pouvez continuer à en débattre bien sûr sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.